Pierre Vidal-Naquet, pour vous présenter, je pourrais me borner simplement à dire que vous êtes un esprit libre, ce qui vous vaut d'ailleurs autant de haine que de respect de manière générale. J'ajoute quand même que vous êtes historien, l'un des meilleurs spécialistes de la Grèce ancienne. Vous avez mis votre plume, et Dieu sait si votre plume est redoutée au service de tous les combats anticolonialistes, le Vietnam, l'Algérie, bien d'autres. On vous doit, et je le précise ici solennellement, le livre qui dénonce de manière exemplaire et historienne les théories révisionnistes, ce sont les assassins de la mémoire, on le verra tout à l'heure, je le montrerai à la fin de l'émission. Vous êtes juif, mais vos critiques sur Israël vous font passer pour pro-arabe, tandis que les arabes vous accusent d'être sionistes en général. Enfin, je reste là pour ce soir, on pourrait un petit peu poursuivre. J'ajoute quand même que et Glucksmann et Kouchner vous rendent hommage chacun dans leur livre, chacun à sa manière. Et puis j'ajoute qu'on vous a jamais beaucoup vu à la télévision et de vous inviter pour le tome 2 des Juifs, la mémoire et le présent, publié à la Découverte. En lisant votre histoire proche, je me suis dit, ce n'est pas très facile d'être Pierre Vidal-Naquet, parce que vous êtes, vous dites vous-même, être historien, c'est être par nature un traître au dogme, d'autre un traître à tout le monde.
Oui, je me suis aperçu de ça le jour où j'ai écrit un essai qui s'appelait Flavius Joseph ou du bon usage de la trahison. Parce que Flavius Joseph était un historien juif du 1er siècle qui est passé dans le camp romain. Et il a fait bon usage de la trahison dans la mesure où il a écrit l'histoire. Et depuis, j'ai généralisé cette maxime en me disant que être historien, justement, c'était refuser quelque ordre que ce soit. Qu'il s'agisse de l'ordre de la société, qu'il s'agisse de l'ordre de la mode, qu'il s'agisse de l'ordre social. Et que par conséquent, être historien, c'est trahir. C'est trahir parce que le réel est toujours infiniment plus riche, infiniment plus compliqué que la théorie.
Mais vous dites que l'historien est un praticien de la vérité dans votre livre. Oui. C'est peut-être un souhait plus qu'une réalité, non ?
Non, je pense qu'un historien digne de ce nom, il essaye autant que possible de trouver la vérité. Je sais bien que ce n'est plus tout à fait à la mode et que le mot a perdu de son impact.
Pierre Vidal-Naquet dans une émission de Bernard Rapp qui s'appelait Caractère. De quoi parle-t-il immédiatement ? De la trahison nécessaire et de la vérité. C'est pas mal de commencer par insister sur cette quête de la vérité. Tant aujourd'hui, il est vrai que face au désastre, face à l'ignominie, face à la tyrannie, c'est d'abord, et comme toujours, l'indignation qui nous saisit, l'émotion qui s'empare de nous, mais sans suite la plupart du temps. Or, le combat de Pierre Vidal-Naquet et d'autres tout de même, ça a été de ne pas se contenter de quelques déclarations de principe, encore moins d'étaler des bons sentiments, ce qui a fait sa force et son audience et la détestation qu'il provoquait chez pas mal de ses adversaires, car il en eut, et il en a, et il en aura, c'est la recherche et l'analyse des faits et des discours, la mise en pièce des tromperies, comme disait Pierre le Pape, et ce travail de la vérité. C'est ce travail de la vérité qui, dans un certain nombre de domaines auxquels il s'est attaché, eh bien, on finit par porter des fruits, même si Pierre Vidal-Naquet doutait de la force et de l'évidence des fruits en question, mais concernant la torture, par exemple, Torture dans la République, ce livre avait frappé bien des esprits et bien de beaucoup de ses adversaires, ou son travail sur le colonialisme, eh bien, sans lui et quelques autres, encore une fois, notre France ne considérerait sans doute pas son passé de la même façon. Aujourd'hui même, où la question des bienfaits de la colonisation sont à nouveau en premier plan dans nos conversations et dans nos consciences et dans les rapports internationaux. Et d'autres domaines aussi, comme le négationnisme, je pense à cette cause-là, je pense aussi à 68, la façon dont il était tout de suite présent au sens de l'historien du présent, comme il était un historien de la Grèce ancienne sur laquelle il a promené, on peut dire, un regard neuf. Mais c'est pas, j'ai pas de capacité particulière à juger de son travail comme helléniste, mais par contre, comme citoyen, comme moi aussi, témoin de mon temps, comme vous tous, nous pouvons voir ce que l'œuvre d'un historien intellectuel comme Vidal-Naquet a pu nous apporter et à quel point son héritage est à partager par tous. On a assez peu dans notre temps de ces intellectuels traîtres. J'évoquais vendredi Nizan, mais on peut évoquer évidemment Bourdieu, Orwell, et Sartre, Bouvresse, Foucault et quelques autres qui ont été de ces intellectuels qui effectivement ont été des traîtres à la fonction qui leur était assignée, c'est-à-dire celle de servir le pouvoir. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle des intellectuels sont des intellectuels de comédie, des intellectuels de plateau de télévision, des intellectuels de maquillage, qui n'ont plus qui ne se sentent plus chargés de la colère des peuples, pour reprendre l'expression de Chateaubriand que Pierre Vidal-Naquet chérissait. Je ne dis pas Chateaubriand, mais en tout cas cette expression. C'est avec cet homme-là que nous passons 7h jusqu'à 16h sur France Inter, hommage à Pierre Vidal-Naquet.
Attention, Français de souche nord-africaine et Français de souche européenne, j'ai reçu l'ordre du général commandant-chef d'assurer votre tranquillité et votre sécurité. En conséquence, je n'admettrai aucun incident, qu'il vienne de la part des Européens comme de la part des musulmans. L'armée est ici pour vous protéger.
Vous avez dit qu'un jour, c'est cette guerre qui m'obsédait. Pourquoi est-ce que cette guerre d'Algérie vous obsédait ?
Parce que c'était la France. C'était la France dont l'honneur était en jeu.
Et donc vous vous sentiez à vous tout seul dépositaire ?
Je ne me sentais pas à moi tout seul dépositaire, mais je me sentais co-responsable avec beaucoup d'autres. Et pas que moi. Dès la fin de la guerre, j'ai été anticolonialiste.
C'était 45.
Oui,
1945, 45. Quand on dit la guerre. Oui.
J'ai été anticolonialiste à la mesure où vous ne voyez pas pourquoi les libertés qu'on nous accordait à nous, que nous avions reconquises en quelque sorte, on ne les accordait pas aux Indochinois auxquels on a fait la guerre et ensuite aux Algériens, pour lesquels qui ont été les premiers à trinquer au moment des émeutes de Sétif et de Guelma le 8 mai 1945. C'est pas du tout ce qu'on m'enseignait au lycée. Au lycée, on me donnait au contraire en composition un devoir à faire sur l'œuvre de la France en Indochine, où il fallait expliquer que la France avait tout créé en Indochine, qu'elle avait édité somptueusement les textes vietnamiens anciens, etc., etc. Mais j'espérais, je ne voulais pas la guerre, mais j'espérais qu'un accord serait conclu entre Ho Chi Minh et le gouvernement français. Après tout, il y a eu des moments où on a cru que c'était arrivé. Par conséquent, si vous voulez, ensuite il y a eu le Maroc, la Tunisie. J'ai été un des premiers lecteurs de l'Observateur. Et je suis devenu anticolonialiste pour le restant de mes jours.
Heures troublées en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiefenfeld, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
Par quel enchaînement de circonstances est-ce que vous devenez l'homme qui va dénoncer la torture tout le temps ?
Pour une raison extrêmement simple. c'est que mon père avait été torturé par la Gestapo en 1944. Que lorsque j'ai été au palais de justice après la libération, dans une cérémonie d'hommage aux avocats morts pour la France, comme on disait, morts en déportation ou fusillés, le bâtonnier a lu le témoignage d'une avocate marseillaise qui avait assisté aux tortures infligées à mon père. On le faisait danser, en quelque sorte, avec des coups de canne. Je n'ai jamais oublié cette séance. C'est ce jour-là que j'ai, en somme, appris que la torture pouvait me toucher de près. Et lorsque j'ai su qu'en Indochine, à Madagascar et ensuite en Algérie, on employait ce même genre de procédé, moi qui étais un patriote français, ça m'a indigné en tant que patriote, en tant que fils de victime et en tant que français, tout court.
L'Algérie est et restera indissolublement liée à la France métropolitaine.
La position du Parti communiste au moment de la guerre d'Algérie, elle fluctue, elle évolue.
Elle est molle. Ils votent les pouvoirs spéciaux à Guimolé, le 12 mars 1956. Maroud dépeint très bien cela d'ailleurs dans son article du Monde du 5 avril 1956. Il dit « Une étrange torpeur s'est installée en France ». Chose comme ça. Effectivement, les communistes votaient les pouvoirs spéciaux et les opposants à la guerre d'Algérie avaient le sentiment d'être très isolés. J'en voulais prodigieusement à Guy Mollet. Je le considérais comme le traître par excellence. Qu'Edgar Faure, qui papillonnait, tolère n'importe quoi, ça m'était un petit peu égal. Mais Guy Mollet, qui avait battu Léon Blum au sein de la SFIO au nom du marxisme, de la lutte des classes et de l'alliance avec le Parti communiste, que Guy Mollet tolère des choses pareilles, cela me mettait absolument hors de moi. Je l'appelais comme Mauriac, ce magistère immobile. Et je n'ai jamais caché à personne que j'avais bu du champagne le soir de sa mort.
Bonsoir, voici le dernier numéro de l'année 67 de Caméra 3. Une deuxième photo, plus émouvante encore, c'est le portrait d'un jeune homme. Il avait 28 ans, il s'appelait Maurice Audin. C'était un jeune militant communiste, il était assistant à la faculté des sciences d'Alger. Et il y a 10 ans de cela, à peu près, pour que la vérité soit sur Audin soit officiellement connue, des hommes ont fondé un comité Maurice Audin et ont essayé de faire savoir ce qui s'était passé. On prétendait qu'Audin était mort en tentant de s'évader. En réalité, et c'est seulement aujourd'hui qu'on a pu officiellement le dire, il était mort, torturé par les parachutistes.
Pour moi, la question la plus importante était de savoir si cette torture était une torture accidentelle ou une torture d'État. Et c'est ça qui est devenu au centre de mon œuvre écrite dans ce domaine. Ça a été d'où le titre « La raison d'État » et d'où ensuite le petit livre que j'ai écrit pour un éditeur anglais qui s'appelait « Torture Cancer of Democracy »,« Torture Cancer de la démocratie » et qui est devenu 10 ans après en France « La torture dans la République ». Encore un titre génial de Lindon. Moi, j'avais dit la torture et la République. Il a dit non, la torture dans la République, comme le ver dans le fruit.
Mais est-ce que la mine n'est pas une amnistie qui couvre tous ces faits relatifs à la guerre d'Algérie?
Oui, effectivement, il y a une amnistie. Et d'ailleurs, ce comité l'a reconnu. Et au cours d'une des audiences, à la cour d'appel d'Amiens, il y a 3 semaines, M. Vidal-Naquet, qui fait partie du comité Audin, a dit « Le fond de notre affaire est couvert par l'amnistie, nous nous inclinons. » Mais c'est en historien que nous avons tenté d'éclaircir ce cas, et il ajoute « Car pendant 10 ans, cet homme et quelques autres avaient été traités d'escrocs et de menteurs parce qu'ils prétendaient des choses qui, paraît-il, n'étaient pas vraies. » Il ajoute « Nous ne vous demandons pas de vous prononcer sur le fond, mais simplement de dire que nous avons été d'honnêtes gens. » Et en effet, Ils ont simplement voulu dire la vérité sur cette affaire Audin. Cela a pris 10 ans, mais je crois que toutes les vérités, surtout ces vérités-là, sont bonnes à dire.
Si on reprend l'affaire Audin, qu'est-ce qu'il y a au début de l'affaire? Quelle est l'histoire de Audin?
L'histoire de Audin, c'est celle d'un jeune assistant de mathématiques, très doué, élève de Laurent Schwartz.
Qui est assistant en fac.
À la fac des sciences d'Alger.
Ouais.
Et qui, le 11 juin 1957, est arrêté par des parachutistes qui disent à sa femme, s'il est sage, il sera de retour ici dans une heure. On voulait connaître par lui l'adresse de Paul Caballero et d'André Moine, qui étaient deux dirigeants du Parti communiste algérien.
Et Audin était communiste.
Audin était communiste, sa femme aussi.
Donc il devait, c'était assez logique de penser qu'il connaissait.
Bien. Et alors ils l'ont torturé, ça on le sait par des témoins directs. Et puis ils ont déclaré qu'il s'était évadé. Et dans Le Monde, pendant l'été 57, il y avait tous les 3-4 jours un groupe de lettres de lecteurs qui disaient « Je m'inquiète du sort de mon collègue Maurice Audin ». L'un d'entre eux était Jean Bruat, un personnage pour lequel j'ai peu de considération politique, puisqu'il a été vraiment un stalinien de l'espèce la plus complète. Mais il disait « À l'heure où les enfants jouent sur les plages, je trouve douloureux de penser aux enfants de Maurice Audin. » J'étais à ce moment-là à Marseille et j'allais me baigner tous les jours. Et je me suis dit, mais après tout, moi aussi, j'ai un fils aîné qui joue sur les plages et j'ai un second fils que je surveille dans son berceau.
Invité de pièce à conviction, le général Ossarès, bonsoir. Je reprends votre livre d'abord à la page 190. Vous expliquez bien que c'est vous qui avez demandé au lieutenant Charbonnier d'interroger Maurice Audin et Henri Alleg. Vous saviez ce qui allait se passer, vous, à l'époque. Vous saviez qu'il allait être torturé.
Non.
Vous saviez, à l'époque, en envoyant Maurice Audin, Henri Alleg et le docteur Hadjadj se faire interroger, vous saviez ce qui allait se passer?
Non, c'était pas obligatoire.
Toute l'affaire Audin est totalement sortie de votre tête?
Parce qu'elle n'était pas entrée. J'estimais que les trois, ce docteur dont j'oublie le nom...
Docteur Hadjadj.
Docteur Hadjadj, Alleg et Audin, eh bien c'était les gens qui pour moi étaient sans intérêt.
Vous ne pouvez pas nier que vous avez eu connaissance de cette affaire.
Oh ben, j'ai eu connaissance de cette affaire, mais après j'ai laissé tomber.
Mais là, au moment où il a été transféré, vous n'aviez toujours pas laissé tomber.
Je ne me souviens pas de ça.
Au sortir de la guerre, Raymond Aron m'a dit « Vous avez été courageux ». Alors je lui dis, mais vous savez que nous avons aussi dénoncé les tortures infligées aux gens de l'Ouest. Bien entendu, m'a-t-il dit. Autrement, je ne vous dirais pas que vous avez été courageux.
Vous dites la guerre en parlant de la guerre d'Algérie. Alors, comme si c'était vraiment...
C'est la guerre de ma génération.
Oui. Vous ne l'avez pas vécu comme une guerre.
Je l'ai vécu comme un drame, une tragédie, si vous voulez. Ce que Aron, justement, a appelé la tragédie algérienne.
Thank you.
Pierre Vidal-Naquet est né en 1930. Ses parents, blessures ineffaçables, arrêtés en 1944, ont disparu dans les camps de la mort. Étudiant, fou de poésie et de littérature, il a découvert la Grèce, lu Platon, passé l'agrégation d'histoire. Historien et philosophe, il a beaucoup écrit sur la Grèce antique, mais aussi historien et militant, plongé dans l'histoire de son temps, il a écrit son premier livre au temps de la guerre d'Algérie, l'affaire Audna. Vous vous sentiez en guerre avec l'État dans toute cette période ?
Ah oui, on se sentait en grosse difficulté avec l'État. Encore une fois, il s'agissait pour nous de montrer que la responsabilité de l'État était engagée.
Qu'est-ce que passer du statut de jeune professeur de lycée ou déjà assistant en fac à tout d'un coup le statut de, je sais pas moi, de porte-parole de la révolte contre le gouvernement, vous éprouviez quoi ?
Le sentiment, une sorte d'envie de gloire au sens cornélien ou péguiste du terme.
Carrément.
Oui.
Mais l'idée que vous deveniez quelqu'un d'autre que...
Oui, non, mais je veux dire, je voulais en quelque sorte marquer mon époque. C'est très naïf de dire ça, mais c'était ça que je ressentais. Dans tout ce que je faisais, je n'oubliais jamais que j'étais historien et que par conséquent, il fallait que je m'identifie à la vérité.
C'était la vérité, la lutte contre l'imposture.
Oui.
Ça fait partie de la rage historienne.
Oui, absolument.
Pierre Vidal-Naquet ou la rage historienne au micro de Pierre-André Boutan. Un homme qui voulait marquer son époque alors qu'il avait été lui-même marqué par l'époque en faisant ses allers-retours permanents de l'histoire ancienne, de la Grèce antique, à l'immédiat, à l'aujourd'hui. Et il voyait, il parvenait, il s'efforçait dans l'humus de la mémoire, dans l'humus de l'histoire, de trouver les substances pour éclairer, pour comprendre et pour aujourd'hui apporter quelques fragments de vérité, pas pour son propre usage seulement, mais pour tous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes autour de Pierre Vidal-Naquet, de ses archives, de cette voix qui a disparu, mais qui est présente, espérons pour longtemps.
Alors, d'abord, il y a un truc très étrange, c'est vous dites, il y a une espèce de pudeur quand je dis ne jamais dire juif. D'abord parce que les antisémites ont souvent dit les juifs, en oui. français, en allemand. Vous y allez carrément, c'est les juifs, le juif.
Oui, enfin, je ne l'ai pas dit tout de suite. Comme tout le monde, comme beaucoup de mes congénères, comme on dit, j'étais un israélite. Mais israélite, c'est quelqu'un de. C'est celui qui observe un culte. Or, je n'ai jamais observé le culte juif. J'ai été dans toute ma jeunesse une fois à la synagogue. C'était à l'Office des Morts, après juin 40. Après la fin de la guerre, bon, je me disais, enfin, je suis de nouveau un Français comme les autres et ne parlons plus de ça. Mais il y a eu le phénomène israélien, il y a eu tout ce genre de choses. Et à partir de 65-66, j'ai commencé à m'intéresser à cet aspect de mon passé. L'élément déclencheur a été quand même essentiellement la guerre de 67, la guerre des six jours. Mon premier réflexe, comme celui de beaucoup d'autres, a été de dire, mais enfin, Israël est menacé dans son existence même. Et j'ai participé à une célèbre réunion dans un milieu très restreint à Saint-Germain-des-Prés.
Avant le début de la guerre.
Avant le début de la guerre, le 30 mai, où on a entendu Claude Lanzmann dire s'il me faut dire vive Johnson, je dirais vive Johnson parce que seul Johnson peut sauver Israël.
« 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif lointain, El Kantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence. Elle sera sans doute infiniment plus longue.
Et puis, il y a eu la victoire foudroyante d'Israël. Et j'ai réagi presque tout de suite dans un article écrit le 10 juin 67, qui s'appelle « Après », et dans lequel je dis que la solution consiste à ce qu'il y ait, à côté d'Israël, en Cisjordanie et à Gaza, un État palestinien qui vivrait à côté d'Israël.
Vous dites ça en 67.
Je dis ça en juin 67.
Est-ce que vous êtes
juin
nombreux 67. À dire en ce temps ?
Non, absolument pas.
Et c'est pris comment ?
C'est pris très mal. Je reçois des lettres donnant leur accord, mais je les reçois de gens comme Domenac, Thibault, quelques autres. Très peu de lettres de juifs.
C'est-à-dire que des gens qui relevaient de la grande conscience, mais un peu,
oui.
Qui étaient un peu détachés de cette histoire.
Oui, c'est ça. Mais en général, je suis très, très violemment attaqué. Je commence à ce moment-là un travail qui consiste à aller voir des Israéliens, à aller voir des Arabes, et je répète ça à tous ceux que je vois. En 67, l'état-major de Tsahal a proposé qu'il y ait un État palestinien. Je l'ai, moi, proposé, j'en ai parlé, à Golda Meir. En fin juin ou début juillet 67, lorsque par l'entremise de Daniel Meyer, nous avons été quelques-uns, notamment Laurent Schwartz, Alfred Castel et moi, à la rencontrer. Je lui parlais de l'État palestinien et elle a eu ce mot historique, where to put it, où le mettre. Et elle me dit à ce moment-là qu'elle considérait que la bande de Gaza devait rester sous souveraineté israélienne. Et c'est en quelque sorte 30 ans après au moins qu'on a commencé à parler, au moment d'Oslo, d'un État palestinien. Et on n'y est pas arrivé, comme vous le savez. Je ne suis plus sûr que deux États, la solution des deux États soit encore possible. Parce que la conquête israélienne a été telle qu'un jour ou l'autre, ils vont être les maîtres de l'ensemble de la Cisjordanie et de Gaza. Et à ce moment-là, il n'y aura plus que deux solutions, ou bien l'apartheid complet, avec au besoin expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain, ou bien ce qui s'est produit en Union sud-africaine à partir de 1994, c'est-à-dire un État binational.
Vous y croyez ?
J'y crois. Je voudrais bien. Moi, je crois que ça finira très mal.
Il n'y aura pas d'État binational, il y aura...
Non, je crois que les Israéliens ont malheureusement franchi un peu le point de non-retour.
Les gens considèrent quoi ? Vous êtes un traître à Israël ?
Ce qu'on disait en Israël, volontiers, c'est qu'il y avait trois grands traîtres juifs français. Le premier était Maxime Rodinson. Le second était Éric Rouleau. Et le troisième était moi.
Éric Rouleau, ambassadeur en Égypte. Rodinson, complètement arabisant.
Oui.
Et vous, quoi, refusant de lier l'État, refusant de vous soumettre à l'idée que l'État d'Israël, c'est plus important que la diaspora, plus important.
Oui, oui.
C'est quoi votre idée du... Votre idée de...
Je crois que...
Je sais pas comment dire. La fonction ou la mission du juif dans le monde.
C'est une mission qui se fait dans la diaspora. Et qui est beaucoup plus importante dans la diaspora que dans Israël. Je crois que l'essence du judaïsme, si tant est qu'il y a une essence du judaïsme, est diasporique. Le sionisme consiste à dire que tout juif digne de ce nom doit aller en Israël. Je considère cela comme absolument faux.
Non. On peut être juif sans être israélien, sans vouloir être israélien.
Absolument.
Alors, là, qu'est-ce que ce judaïsme ?
Pour moi, c'est la diaspora. C'est la diaspora, c'est le fait qu'il y a une identité juive qui a survécu à pas mal de persécutions, qui s'est révélée à elle-même à cause de, en partie à cause des persécutions nazies et qui consiste à être un peu un moufron qui taraude. Un moustique et qui pique les gens comme le moufron de la fable de La Fontaine.
Ce serait la fonction, la mission du juif dans le monde serait ça.
Oui, d'être un emmerdeur.
Cet après-midi, plusieurs dizaines de scientifiques de très haut niveau, des scientifiques français, sont allés manifester devant l'ambassade d'Israël à Paris. Après avoir adressé d'ailleurs un télégramme à Menachem Begin lui demandant de faire cesser les bombardements israéliens au Liban. L'appel est signé par trois prix Nobel et de nombreuses personnes qui se sont déjà mobilisées dans le passé au nom des droits de l'homme pour que soient respectés les droits des juifs d'Union soviétique. C'est heurté au départ à un groupe de jeunes militants sionistes qui voulaient l'empêcher d'approcher de l'ambassade d'Israël.
1982.
Nous avons honte dans la mesure où les Juifs s'identifient à un État conquérant. Oui, nous avons honte. Mais nous sommes fiers aussi d'autres traditions qui existent dans le judaïsme et qui ne se résument pas à l'extermination des peuples soumis.
Le panache de Pierre Vidal-Naquet, souvent par ses adversaires taxé de le procureur Pierre Vidal-Naquet. Alors, on pourrait comme ça, à travers les archives, considérer tous ces combats pour des quantités de causes, je pense notamment au Kosovo, enfin on pourrait multiplier les exemples pour finir cet hommage aujourd'hui, il y a eu 1968. Et qui était présent, bien sûr, en 1968, devinez.
Vous-même une expérience de comme ça de dualité entre l'historien et le citoyen.
Oui. En 1968, je me trouvais au moment des événements de mai à la Sorbonne, dans la nuit du 24 au 25 mai. C'était une nuit de tension. C'est ce qu'on appelle la seconde nuit des barricades. Et d'une certaine manière, c'était le maximum de la tension.
1972.
J'avais le sentiment aigu que l'aventure ou le mouvement ou la révolution, quel que soit le nom qu'on le baptiserait, s'était terminé.
Ça, c'est l'historien qui avait ce sentiment-là.
L'historien avait ce sentiment aigu que tout le monde n'avait pas. Dans cette nuit, un de mes collègues a demandé à mon ami Alain Schnapp et à moi-même de préparer un recueil de documents sur ce que nous appelions le mouvement et qui était en train de devenir les événements. J'ai accepté précisément parce que j'avais le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, le mouvement devenait les événements. Et que par conséquent...
C'est-à-dire qu'il était sur son déclin.
Il était sur son déclin, mmh. Et que par conséquent, on pouvait effectivement...
Commencer à l'écrire.
Devant l'agitation de l'université et l'occupation généralisée des usines, le gouvernement étudiait d'urgence la manière de régler le conflit. Jeudi soir, le quartier latin allait être une fois encore le théâtre de violents désordres. Malgré les appels à la discipline lancés par Alain Gesmard, les enragés n'hésiteraient pas à franchir le No Man's Land, séparant les manifestants des forces de l'ordre. Pour la plupart, étrangers au milieu étudiant, les provocateurs allaient la nuit durant saccager la place et le boulevard Saint-Michel.
J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat pour la rénovation.
À chaque morceau est joint une note explicative donnant des conseils pour sa meilleure utilisation.
Et tout de même, quand vous dites que l'historien a senti en vous,
oui,
cette nuit-là, que les jeux étaient faits,
oui,
alors que d'autres pensaient que c'était,
oui,
le summum, au contraire, de la, des possibilités,
oui,
enfin, mouvement. Pourquoi cette lucidité?
Eh bien, parce qu'un historien est conscient d'une chose dont certains ne sont, dont d'autres ne sont peut-être pas conscients. C'est le poids des résistances sociales à l'innovation. La plus grande force dans l'histoire, c'est l'inertie. Et j'ai senti ce soir-là...
Et pas la lutte des classes.
Et pas la lutte des classes, non. J'ai senti ce soir-là que l'inertie était en train de l'emporter, non pas peut-être, non pas certainement dans le mouvement étudiant, mais dans tout ce qui l'entourait. Et c'est pourquoi, en dépit de cette tension, des incendies, de la bourse qui flambait, j'ai senti qu'effectivement, les choses allaient se terminer.
Que les jeux étaient faits.
Oui.
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père.
Ça veut dire que même s'il y a des mutations brusques, et il y en a en histoire, cela veut dire que la société de demain est toujours la fille de la société d'hier. Et ça, c'est incontestable. Voyez ce qui se passe pendant les révolutions. Qu'est-ce qui se passe pendant la Révolution française? Eh bien, comme l'a montré au XIXe siècle un homme comme Tocqueville, bien, d'une certaine manière, les hommes de la Révolution française accomplissent le programme de l'Ancien Régime tel qu'il était constitué depuis Louis XIV. Les préfets sont les fils des intendants. Prenez la révolution russe. D'une certaine manière, la révolution bolchevique accomplit, mieux que ne pouvait le faire l'État tsariste, le programme de l'État tsariste. Parce que la société, même pendant la tempête révolutionnaire de 1917, n'a pas changé fondamentalement. Il y avait des paysans russes, il reste des paysans russes.
Elle a continué dessous.
Et le problème de l'encadrement de ces paysans russes est resté fondamentalement le même. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à ceux qui s'imaginent que l'on peut passer brusquement du noir au blanc ou du blanc au noir.
Bon, mais il n'y a pas, l'historien ne croit pas à l'événement apocalyptique.
Exactement, il n'y a pas d'apocalypse. en histoire. Ça, c'est une... bien sûr, on peut supposer un drame épouvantable. Mais même s'il nous tombait une bombe atomique sur la figure, eh bien, il y a des choses qui ne changeraient pas ou qui changeraient seulement très lentement. Cela, il faut en être conscient. Et beaucoup de gens n'en sont pas conscients.
Voilà, on finit sur ces mots. Cet hommage à Pierre Vidal-Naquet. Cette émission a été préparée par Renaud Lambert. Merci à tous. Demain, dans le cadre des états généraux de la condition pénitentiaire, on reviendra sur des reportages de Guy Vantil. À la technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Julien Chabassu. C'est Yann Choukeiko et Yann Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert, qui attend vos messages devant le répondeur de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.